Chapitre 35. Franks attendit encore quelques secondes avant de presser la détente. Les ours polaires n'avaient pas ralenti, galopant avec une légèreté et une rapidité surprenantes pour des animaux de leur gabarit. Il choisit de tirer sur celui de droite, légèrement en avance sur son congénère. Des ondulations parcouraient son pelage d'un blanc immaculé. Ses yeux étincelaient au-dessus de son museau noir et pointu. Franks chassa d'une expiration énergique les premières manifestations de panique, pensées désordonnées, frémissements, tremblements. Les aboiements stridents des chiens se brisèrent sur la bulle de silence qui l'enveloppa. Il visa entre la face et le poitrail de l'ours. Pressa la détente. La crosse lui heurta sèchement le creux de l'épaule. La détonation se prolongea en écho décroissant dans le silence des ténèbres. Il lui sembla que la masse blanche louvoyait et s'affaissait dans la neige. Il ne prit pas le temps de s'en assurer. Il braqua aussitôt son fusil sur le deuxième ours. Mit du temps à le repérer. Affolé par le coup de feu, le plantigrade courait à présent sur la pente de la colline opposée. Franks le garda dans sa ligne de mire jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière une grande congère. Des aboiements furieux et un grondement sourd l'entraînèrent à se retourner. Les quatre chiens cernaient l'ours sur lequel il avait tiré. Des taches pourpres souillaient son pelage au niveau du poitrail et de l'épaule droite. Il était tombé dans la neige sur laquelle il avait abandonné un sillage parsemé de flaques de sang. Puis il s'était redressé pour affronter les chiens, qui, surexcités, avaient aussitôt entrepris de le harceler. Ils amorçaient à tour de rôle une attaque, se repliaient, avant que leur redoutable adversaire n'ait eu le temps de riposter, l'obligeait à se retourner sans cesse pour parer les assauts qui surgissaient de tous côtés, le vidait de ses dernières forces. Ses grondements se prolongeaient en râles sourds. L'un des chiens planta ses crocs dans le haut de sa patte arrière et se suspendit de tout son poids pour le contraindre à se coucher. L'ours pivota sur lui-même avec une telle vivacité que son agresseur lâcha prise. Il ne lui laissa pas le temps de se rétablir. Il le frappa d'un coup de griffe aussi puissant que précis, le décolla de la neige et le propulsa plusieurs mètres plus loin. Le chien ne se releva pas. Les trois autres reprirent leur travail de harcèlement, évitant avec adresse les derniers coups de boutoir de leur adversaire, de moins en moins énergiques. Franks lançait de fréquents coups d'œil sur la colline derrière laquelle avait disparu le deuxième plantigrade. Les voiles blancs tirés par le vent avaient déjà presque effacé ses empreintes. L'ours cessa de se débattre, resta un moment immobile avant de s'effondrer et de pousser un long râle d'agonie. Les chiens se ruèrent sur lui pour la curer. Une telle quantité de viande était une véritable manne dans les circonstances. Franks décida de boire du sang de l'animal avant qu'il ne se refroidisse. Tandis que les chiens déchiraient frénétiquement le ventre de l'ours et se repaissaient de ses viscères, il lui perça la jugulaire à l'aide de la pointe de son couteau et recueillit le liquide pourpre et chaud dans l'écuelle en plastique ramenée du garage. Il l'attendit à Souria, qui la vida jusqu'à la dernière goutte sans montrer la moindre réticence. Il la remplit de nouveau, mais contrairement à la fillette, il dut surmonter une violente répulsion pour y tremper les lèvres. Il but le sang d'une traite, sans reprendre sa respiration. Le goût n'en était pas fort, étonnamment doucereux. Il se sentait en tout cas irradié par une vigueur nouvelle. Il renouvela l'opération à deux reprises, et Souria vida chaque fois l'écuelle sans rechigner. Il entreprit ensuite de couper des morceaux de viande pendant qu'elle était encore tendre. Il n'avait jamais dépecé d'animal de sa vie, pas même un poulet. Mais les gestes lui venaient naturellement. D'abord décoller le cuir, puis trancher les tendons, les attaches, les cartilages. Il lança plusieurs morceaux au chien et prépara pour Souria et lui-même des petits cubes de viande qu'ils mangèrent tout de suite. Ils lui parurent tout à fait comestibles, voire délicieux. Son corps en tout cas s'en emparait avec avidité, probablement conditionné par ses besoins en protéines. Il bourra son sac à dos de toute la viande qu'il put récupérer. Les trois chiens, repus, les museaux marbrés de sang, se reposaient tranquillement près de Souria. Le cadavre de leur congénère, les reins brisés par le coup de patte de l'ours, se recouvrait déjà d'un linceul clair. Ils se relevèrent lorsque Franks vint prendre la fillette par la main et gagnèrent au petit trot le sommet des collines d'où ils suivirent les deux humains. Ils franchirent les monts d'Ambazac, un ensemble de collines dont les plus hauts sommets culminaient à environ 600 mètres. Des panneaux défoncés où figurait une tête de mort signalaient la présence d'anciennes mines d'uranium. Franks et Souria marchaient d'une allure soutenue le long de la Nationale 20, dont le tracé rectiligne, bien que recouvert d'une gangue de 3 mètres de hauteur, restait à peu près visible au milieu des reliefs. On distinguait nettement les formes des véhicules piégés par le cataclysme, les files de voitures et de camions qui s'étiraient parfois sur plusieurs centaines de mètres. Des failles fragmentaient la grisaille, étroite, brisée, comme des craquelures dans une terre desséchée, contraignant les marcheurs à des méandres heureusement assez brefs. Les cimes d'arbres ensevelis crevaient par endroits la couche de neige, de cendres, de glace, et parsemaient les pentes de tumulus en forme de cône. Des flocons épars tombaient régulièrement des abîmes célestes. Le froid et le vent cinglant épuisaient rapidement les forces redonnées par le sang et la chair de l'ours. La brève sensation d'euphorie qui avait suivi le dépeçage du fauve avait de nouveau fait place à la lassitude, à la tentation lancinante de s'allonger dans la neige et de se laisser mourir. Les chiens suivaient à distance. Leurs éclipses étaient régulières, et parfois si longues que Franks les croyait à jamais disparues. Puis leurs jappements résonnaient dans le lointain, et il apercevait leurs silhouettes sombres disséminées le long d'une pente. Il leur avait distribué d'autres morceaux de viande avant qu'elles ne soient complètement congelées. Il se demandait si le deuxième ours les suivait à distance. Le grand prédateur ne laisserait sans doute pas passer une telle aubaine dans un environnement aussi pauvre en ressources et guetterait le moment propice pour passer à l'attaque. Il leur faudrait donc se reposer dans un abri relativement solide et déployer une vigilance de tous les instants. Il jugea, à l'allure vacillante de Souria, que le moment était venu de la jucher sur ses épaules. D'abri, ils n'en trouvèrent pas, pas même lorsqu'ils arrivèrent dans les environs de Limoges. De la ville dont on avait une vue d'ensemble du haut d'une colline, il ne restait rien d'autre qu'un immense champ légèrement pentu et jonché de reliefs inégaux et blancs. Les noms de Couzex et Gorsex, entrevus sur un panneau coincé dans la cime figée d'un arbre, confirmèrent à Franks qu'il s'agissait bien de l'ancienne agglomération limougeaude. Moins de 80 kilomètres le séparaient désormais du feu de Dieu, soit 6 ou 7 jours de marche. Il se dit presque aussitôt que son espoir risquait d'être déçu, que les tremblements de terre avaient peut-être emporté l'arche. Puis, une image émergea de ses pensées. Théo et Zoé, dans un endroit sombre éclairé par le rayon ténu d'une lampe. Un enchevêtrement de poutres au-dessus d'eux. Leur visage inquiet. Il se demanda ce qu'ils fichaient là. Où était passée Alice? Il comprit qu'ils étaient en danger. Et animé par une rage et une vigueur nouvelles, il dévala la pente de la colline, Souria installé à califourchon sur ses épaules. Il marcha aussi longtemps que possible, traversa l'agglomération sans détecter de traces de vie, ni remarquer la moindre possibilité d'abri, retrouva la Nationale 20 après avoir franchi une rivière gelée, la Vienne probablement. Il avisa d'anciens panneaux aériens, maintenant au ras du sol et protégés de l'ensevelissement par une grotte de glace. Il éclaira les panneaux en partie givrés avec une lampe torche. Brive, Toulouse, Avin. De voir ainsi affiché Brive lui provoqua une émotion intense, violente. Il était tout proche du but. Il devait encore accélérer, gagner du temps. Les chiens aboyèrent derrière lui. Il ne discerna aucun mouvement entre les reliefs blancs. En revanche, en levant les yeux, il découvrit dans le ciel un phénomène lumineux dont la splendeur l'émerveilla. Une rosace pourpre se déployait dans les ténèbres. Elle évoluait à la façon d'une méduse dans l'océan, déployant régulièrement ses traînes de lumière comme des tentacules, passant sans cesse d'une forme circulaire à une forme ovoïde. Ses reflets teintaient de pourpre et de rose les reliefs de la ville enfouie, les congères et les collines environnantes. C'était sans doute une aurore boréale. Mais le phénomène paraissait animé d'une vie propre, décrivant une trajectoire précise. Des couronnes, rouges et mauves, apparurent autour d'elle et s'enchevêtrèrent en vitraux aux motifs complexes. L'espace de quelques secondes, Franks crut qu'on tirait un feu d'artifice dans les parages. La tête levée, les yeux écarquillés, Souria appréciait elle aussi le spectacle. Puis le ciel recouvra progressivement sa noirceur désespérante. Il parcourut encore une distance qu'il estima à 10 kilomètres avant de jeter l'éponge. Comme il n'entrevoyait aucun abri, il décida d'en fabriquer un avec des morceaux de glace. Il ne pourrait pas faire de feu, donc pas non plus décongeler les aliments, mais il lui fallait se reposer au moins 2 ou 3 heures avant de repartir. Il descendit Souria de ses épaules, se débarrassa de son sac à dos, sortit son couteau, commença à découper dans le sol des cubes de neige durcie et les assembla le plus rapidement possible tout en lançant de réguliers coups d'œil à Souria debout à ses côtés. Il finit par obtenir une construction vaguement cubique, d'une longueur 1,50 m, d'une largeur et d'une hauteur 1 mètre. Il termina par le toit, prélevant des bandes plus longues, les posa sur les faîtes des 4 murets et combla les interstices avec la neige molle. Il se glissa dans l'igloo par l'ouverture juste assez large pour lui et promena le rayon de sa lampe à l'intérieur pour en vérifier à la fois l'étanchéité et la solidité. Il songea à faire entrer les chiens pour profiter de leur chaleur. Mais leurs anges gardiens s'étaient déjà couchés près de l'igloo et ne semblaient pas décidés à bouger. Et puis, il y avait à peine assez de place pour Surya, le sac et lui. On entendait leur allaitement au travers des murs. Franks reboucha l'ouverture avec un cube de glace. Puis, à la lueur de la lampe, il défit Surya de son bonnet, de ses lunettes, des pans de tissu lui protégeant le visage, de ses gants et de sa doudoune, qu'il étala sur le sol afin que la fillette puisse s'y allonger. Il s'étendit près d'elle une fois dévêtue et prit le temps de vérifier pistolet et fusil avant de tirer sur eux son manteau déplié en couverture. Il était tellement fatigué qu'il ne prêta aucune attention au sentiment de claustrophobie qui se déployait en lui. Il régnait dans l'igloo une température agréable, rassurante. Bercé par les mugissements du vent, il sombra dans un sommeil profond. Un pressentiment l'étreignit au réveil. Surya respirait à ses côtés. Il resta quelques instants à l'écoute du silence, ne perçut aucun bruit, ni sifflement, ni allaitement. Alluma la lampe. Rien n'avait bougé. Il laissa quelques secondes le visage de la fillette dans la lumière. Elle dormait paisiblement. Sa beauté, la délicatesse de ses traits, à nouveau l'émerveillèrent. Muni du pistolet, il repoussa lentement le bloc de glace qui faisait office de porte. Le froid s'engouffra aussitôt. La sensation de danger se fit plus intense, presque palpable. Il hésita à sortir, puis, se disant qu'il ne pouvait pas éternellement rester coincé dans l'igloo, il passa la tête dans l'ouverture. Il ne vit d'abord que l'infinie étendue grise écrasée de ténèbres. Les chiens avaient disparu. Des particules glacées lui piquetèrent le visage. Il crut d'abord qu'elles avaient été projetées par le vent, puis une masse surgit devant lui, et un grondement terrifiant ébranla le silence.